petit monde musical de Françoise et Thérèse.
Bonjour Françoise.
Bonjour Thérèse, je suis contente de vous retrouver pour notre nouvelle émission. Oui, avec toutes les nouveautés qu'on a trouvées l'une et l'autre. Et j'espère que les auditeurs, comme nous, vont apprécier nos choix.
Absolument, et c'est avec énormément d'enthousiasme que nous préparons donc que nous avons préparé cette émission pour démarrer l'année 2021. Et donc Françoise, vous nous avez choisi un morceau de Gustav Mahler pour démarrer.
Alors, tout à fait, le titre, je vais essayer de le dire correctement parce que c'est de l'allemand, Ich singe meine Lust. Alors, c'est Christian Garg, soprane, et le pianiste, elle est accompagnée par Gustav Mahler. Donc, c'est une nouveauté de diapason qui a été, bien sûr, tout à fait reconnue et couronnée par un diapason d'or. Alors, vous me dites, attendez, je n'ai pas compris, là, qu'est-ce que ça nous dit, là, Gustav Mahler au piano. Bon, alors, Gustav Mahler, eh bien non, ce n'est pas du tout une fantaisie terrestre de ma part. Est-ce que vous avez entendu ce morceau ? Sur diapason.
Oui, bien sûr.
Vous l'avez entendu. Donc, moi, je me suis reprise à trois fois pour me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et j'ai lu l'article, effectivement, de Sylvain Faure, qui est chroniqueur de diapason. Et alors, la soprane a choisi d'interpréter, tenez-vous bien, sans la moindre concession, l'univers malérien, qui est quand même si parfait, si sensible, en compagnie, je vous répète, ce n'est pas une farce pour la nouvelle année, c'est Gustav Mahler qui est au piano. Et alors, cette voix, cet artiste s'adapte parfaitement à ce pianiste fantôme, bien entendu, hein, parce qu'on ne suppose pas que c'est Gustav Mahler qui est revenu nous faire un petit coup de piano et un lead en particulier avec cette formidable soprano. Mais non, pas du tout. C'est grâce à la magie, moi je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout, la magie des rouleaux Weltmignon. Weltmignon, attendez, je ne savais pas ce que c'était, donc ça nous vaut vraiment cette interprétation, vous allez entendre, qui est vraiment très, très émouvante, d'autant plus que, c'est quand même très particulier, quoi. Et en fait, le résultat est bouleversant de vérité, et là, cette voix qui est magnifique profite largement du compositeur au piano. Alors, on va vous expliquer, parce que ce n'est pas un conte de fées. Donc voici cette explication, c'est la magie des rouleaux Weltmignon. Ce rouleau, en fait, c'est un rouleau de piano mécanique. En fait, c'est un support d'enregistrement permettant d'actionner un piano mécanique. Vous savez, comme on voit des fois dans les bars, dans les westerns, les touches qui se lèvent, qui s'abaissent, et c'est complètement magique. Donc, moi, je découvre cette chose. En résumé, vraiment, le rouleau pneumatique de piano a été le premier média produit et copié industriellement et qui a permis de diffuser rapidement et facilement la musique. Alors, les premiers rouleaux ont été utilisés par Welt et Fils dès 1883 et ont été produits de 1896 à 2009. Ainsi, le jeu des pianistes et compositeurs célèbres est conservé sur des rouleaux pour piano reproducteur. Alors, si vous êtes intéressé, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, vous allez sur Google, comme j'ai fait pour me renseigner. Voilà, j'ai appris vraiment quelque chose. Et maintenant, écoutez, moi, je vous laisse en compagnie de Christian Karg, la soprano, accompagnée vraiment de Gustav Mahler au piano. Et c'est édité par HM. Je pense que vous allez apprécier autant que nous.
C'est très beau.
Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Ich hört die Vöglein singen. Die kleinen Waldvögelein im grünen Wald.
J'espère que vous avez apprécié cet extraordinaire enregistrement. Je pense qu'il y aura peut-être des suites avec des voix pareilles et des compositeurs célèbres. Et c'est un vrai bonheur de se retrouver en compagnie de Gustav Mahler. Donc, c'était « Ist Jing My Lust ». Maintenant, Thérèse, vous nous avez trouvé des choses merveilleuses aussi.
Oui, absolument, Françoise. J'ai trouvé trois très, très beaux extraits. Je vais commencer, alors ce n'est pas la première fois que je vais vous parler de l'arpeggion et de cette sonate pour arpeggion, parce que cet arpeggion, eh bien, c'est très beau et malheureusement on n'en entend plus puisque c'est un instrument qui n'existe plus. C'était une sorte de guitare-violoncelle, une guitare jouée à l'archet. C'était un instrument un petit peu variante de la viole de gambe. Donc Schubert avait écrit cette sonate pour arpeggion en 1824, et elle a été publiée à titre posthume simplement en 1871. Et c'est la seule œuvre, en fait, pour arpeggion qui a été enregistrée. C'est très, très rare. Comme l'instrument n'existe plus, il y a évidemment très peu d'enregistrements. Nous avons déjà écouté des extraits de cette sonate arpeggion, parce que, égoïstement, comme je la trouve très belle, j'ai souvent envie de vous en passer un extrait. Et là, en fait, c'est le mouvement lent, l'adagio, donc, que nous allons entendre, interprété par Amiae Gross et Sunwoo Kim. Et c'est un CD alpha. Donc voilà, c'est l'adagio, encore plus émouvant. Voilà, c'est doux. Pour bien démarrer cette année, eh bien, nous allons commencer en douceur. Je vous souhaite une bonne écoute. Thank you. venez donc d'entendre Sonate pour arpégione, Adagio, interprétée par Amiya Gross et Sunwook Kim. Françoise, est-ce qu'on va un petit peu dans le sud de l'Europe ? Je crois qu'on va y voyager, on va y rester un certain temps d'ailleurs.
Oui, bah, tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que je vais vous parler maintenant d'un compositeur italien qui s'appelle Respighi, Fontaine de Rome. C'est interprété par la Philharmonique de la Scala. Nous avons Riccardo Chailly à la baguette et c'est enregistré par Decca et ça a été récompensé largement par un diapason d'or. Alors là, j'ai aimé ce morceau italien vraiment flamboyant. Voilà, je vous parlais du compositeur Respighi, 1879-1936. Alors, c'est un compositeur, musicologue, chef d'orchestre, violoniste. Il étudie la composition avec Rimsky-Korsakov en Russie, également Marx Bruch. Pourquoi ce choix, ma chère Thérèse ? Je n'ai qu'une phrase à vous dire. Che bello.
Che bello.
Che bello, c'est vraiment che bello. C'est quelle beauté. Alors, c'est un superbe, je répète, CD édité par Decca. Je vous annonce le programme. Les Pins de Rome, Aria pour cordes, Légende pour violon et orchestre, Dans la soirée pour deux hautbois, Herde et danse ancien pour luth, une suite numéro 3, Fontaine de Rome. Nous avons comme musicien Francesco De Angelis au violon, Armel Descott, Ganivero au hautbois et le chef d'orchestre Riccardo Chailly nous permet de parcourir vraiment plusieurs moments créatifs du compositeur. Un prénom pas possible, il s'appelle Ottorino. Jamais entendu un prénom pareil, Ottorino, j'ai bien lu. Respighi. Alors lui, on va reparler du chef d'orchestre parce que vraiment, l'orchestre, il est jamais décoratif, il a du corps. On peut dire qu'il incarne vraiment la plénitude et la profondeur des couleurs, tout en préservant aussi la clarté des lignes. L'extrait que je vous propose fait partie des fontaines de Rome évoquées par le compositeur dans les différents moments du jour. Alors, il y a la fontaine du Val Julia à l'aube, peut-être certains connaissent, la fontaine de Trevi à midi, pour ça, bien sûr. La fontaine de la Villa Médicis, j'ai eu la chance d'aller visiter la Villa Médicis, mais je n'ai pas vu les fontaines au coucher du soleil et enfin les fontaines de Rome. Alors, ce compositeur italien, il est violoniste et altiste, et bien sûr, il savait tout de l'écriture, mais aussi pour la polyphonie. Flamboyante, dans le bruit et la fureur romaine, l'œuvre avance et s'ouvre, laissant une place importante dans une progression dynamique, impressionnante. Comme vous allez l'entendre, les trompettes, les violons déchaînés, les percussions vibrantes faisant jaillir à l'aide de cette musique l'eau éblouissante des fontaines romaines. Et maintenant, mes chers auditeurs, je vais vous laisser apprécier, hein, je vous emmène sous les bruines et l'éclat merveilleux des fontaines de Rome. Bonne écoute! Vous avez donc entendu de Respighi Les Fontaines di Roma, et c'est la Philharmonique de la Scala. Riccardo Chailly dirige et c'est édité par Decca. Chère Thérèse, vous nous emmenez toujours sous le soleil ?
Oui, absolument. Nous allons rester au soleil. C'est mi-Pologne, mi-Italie, puisque c'est un opéra de Vinci que nous allons, enfin, un extrait d'un opéra de Vinci, puisque cet opéra dure 4 heures. Nous n'aurons donc pas le temps de l'écouter pendant l'émission. Mais c'est un extrait donc interprété par Franco Foggioli dans le CD qui vient de sortir, Veni Vidi Vici, qui nous permet de découvrir l'œuvre de Leonardo Vinci, exalté par l'empire vocal du contre-ténor. Classica dit qu'il possède l'art et la manière. Et en effet, c'est à l'écoute de ses vocalises que j'ai décidé de vous proposer cet extrait. Alors, l'opéra polonais Gismondo de Leonardo Vinci, dont la création a eu lieu en 1727 au Teatro delle Dalme de Rome, est un chef-d'œuvre qui mérite d'intégrer le répertoire aux côtés des plus grandes œuvres de son temps. Avec des constellations familiales aux accents freudiens et des pratiques occultes, son livret bouleverse les conventions traditionnelles de l'opéra seria. Il met en scène un tyran imprévisible dont le comportement erratique et le goût des rituels superstitieux poussent l'ordre mondial au bord de l'abîme, dans le plus grand mépris de la raison et du bien-être de l'humanité. Les scènes de Vinci rappellent des séances de thérapie avec des héros et héroïnes qui plongent dans les profondeurs de l'âme, sur les champs de bataille shakespeariens où les vivants échappent au pire carnage. Le mieux, c'est de l'écouter. L'interprète, c'est le contre-ténor Franco Foggioli avec l'ensemble Il Pomodoro, Zefira Valvoa à la baguette et au violon. Et c'est un ensemble que d'une dizaine de musiciens, mais tous absolument exceptionnels, des musiciens qui performent dans le monde entier. Donc voilà, je vous souhaite une excellente écoute de cet extrait qui s'appelle Gismondo re di Polonia, quel usingolo c'è immamorato.
Oh,
Donc d'entendre de Leonardo Vinci par Franco Fagioli, Gismondo Redi Polonia. J'espère que vous avez aimé. Françoise ?
Oui Thérèse, je suis avec vous de tout cœur.
Dans quelle région d'Europe nous emmenez-vous maintenant Françoise ?
Mais c'est très compliqué hein, parce que c'est en même temps l'Italie qui va en Angleterre.
Ah.
Et tout ça, ça se mélange et ça donne des choses assez surprenantes. Vous allez entendre ça, c'est assez, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc, le compositeur s'appelle Matteis. C'est des œuvres. Il y a beaucoup de compositeurs. Il y a Chopp, Locke, Finger, Bannister, une génio inglese. Je vous propose un extrait, bien entendu, une suite en si bémol majeur. Et Alice Julien Laferrière, c'est la violoniste. Et c'est édité par HM et le groupe s'appelle Ground Floor. Alors, deux mots sur le compositeur. Alors, ça va très, très vite parce qu'on connaît presque rien sur ce compositeur durant tout au moins les premières années de sa vie. Mais surtout, on attribue à cet artiste vraiment le changement du goût des Anglais pour la musique. Ça a été une vague déferlante qui a eu des répercussions. Je vous explique. Alors, c'est un peu ce que nous révèle John Evelyn. John Evelyn, c'est un écrivain, je vous donne les dates, 1620, pour vous repérer un peu, 1713. Et en fait, c'est un très célèbre écrivain paysagiste anglais. Et son journal constitue un témoignage important et précieux sur les arts, la politique et la culture, ainsi que la musique du XVIIe siècle. C'est un personnage formidable que j'ai découvert en faisant mes habituelles recherches sur Wikipédia et qui concerne ce changement de goût des Anglais, vraiment... Totalement imprévu, on peut dire, pour la musique italienne. Alors, la devise, moi j'aime beaucoup la devise de cet écrivain, chroniqueur, journaliste, amateur des arts. Sa devise était « explorer tout et garder le meilleur ». Ça, c'est bien, je le retiens. Je le retiens pour tout le monde. Faut être curieux. Mais revenons à notre musique et cette nouveauté musicale. Ces compositions italiennes et ces virtuoses italiens, ils arrivent en Angleterre pour trouver un emploi, et vraiment, ils arrivent avec leur violon, leur musique, et ils sont les observateurs de la vie musicale anglaise sont complètement stupéfiés, parce que c'est un changement total par rapport à la musique anglaise de cette époque. Alors, le napolitain, Niccolò Matteis, il sort du lot parce qu'il a une maîtrise de l'instrument et aussi une inventivité de ses compositions qui étonne. Son œuvre est jeune, joyeuse, vivante, dansante, et l'interprète de ce morceau, qui est Alice Julien Laferrière, l'a complètement intégré avec ses coups d'archer bien définis, et vous allez entendre, et ses pits pétillants. Matteis, c'est aussi un écrivain. Il a publié 4 livres pour violon, avec des titres assez saugrenus, Humour écossais, Imitation du hockey de la trompette. Je vois bien ce que ça donne, ça, l'imitation du hockey de la trompette. C'est bien ça. Et aussi, il donne des explications détaillées pour les amateurs de violon, par exemple les coups d'archer, les ornements, les tempos. Et ces instructions sont toujours d'actualité, figurez-vous, pour les interprètes actuels qui cherchent à reproduire sa technique de jeu. Et pour finir cette chronique que j'ai travaillée vraiment avec beaucoup d'intérêt, voici ce qu'écrit M. Evelyn au sujet de Niccolò Matteis. J'ai entendu le prodigieux violoniste Signor Niccolò. Qu'aucun mortel n'a assurément jamais surpassé sur cet instrument. Son coup d'archer était très doux et il le faisait parler comme une voix humaine et parfois comme un consort de plusieurs instruments. Et pour conclure, écoutez, moi, le mieux, c'est que vous écoutiez cet extrait que j'espère vous allez aimer comme je l'ai aimé. Thank you. Vous avez donc entendu du compositeur Matthéis une suite en si bémol majeur et avec cette merveilleuse violoniste Alice Julien Laferrière, le groupe Ground Flower et c'est édité par HM. Thérèse, on reste. On va où maintenant, s'il vous plaît ?
Je vous invite à la cour de France.
Oh, ben c'est parfait ça !
Je vous invite à la cour de France avec une œuvre de Robert Devizet. Alors, qui était Robert Devizet ? Est-ce que c'est un nom qui vous évoque quelque chose ?
Oui, parce que c'est loin dans mes souvenirs, mais je crois qu'on l'a déjà choisi pour une autre émission lointaine et je pense qu'on l'a déjà entendu.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet extrait ? Il s'agit d'une courante et d'une sarabande interprétée donc à la guitare. Eh bien, parce qu'en ces temps un peu frais, ce que je vous invite à faire, c'est d'une part à monter le son de la radio, à allumer un petit feu dans la cheminée, à sortir peut-être un puzzle, quelque chose, mais en tout cas, à vous confiner bien au chaud, parce que cette musique est extrêmement agréable, apaisante et invite au repos. Robert Devizet faisait partie du petit cercle de musiciens admis dans la chambre du roi Louis XIV et il lui prodigua des leçons puisque celui-ci, comme d'autres membres de la cour, jouait de la guitare. Son maître d'ailleurs fut probablement l'Italien Francesco Corbetta auquel il dédia un tombeau. Que dit-il cet homme de la guitare ? Elles ont plusieurs fois la gloire d'amuser votre majesté dans les heures de ce précieux loisir, où elles se délassent de ses augustes travaux et de ces grandes occupations qui règlent aujourd'hui le destin de toute l'Europe. Il entre à la musique de chambre vers 1680. Il devient maître de guitare du roi vers 1619, prenant la suite de Louis Jourdan de La Salle. Au théorbe et à la guitare, il participe régulièrement aux soirées données par Madame de Maintenon. Selon Gérard Rebourg, il est probable qu'il ait également joué de la viole de gambe. En 1721, il lègue cette charge à son fils François, et par ailleurs, et ce qui fit probablement aussi une part de son succès, c'est le fait d'avoir été musicien de la cour qu'il a pu ensuite se rendre à intervalles réguliers aux fêtes des grandes nuits de Sceaux données par la duchesse du Maine en son château de Sceaux, régaler ses hôtes du son de leurs instruments parmi les chevaliers de l'ordre de la Mouche à miel. On en a déjà parlé, Françoise, vous vous souvenez ?
On en a déjà parlé aussi, et c'était assez amusant comme appellation, mais surtout, c'était une espèce de société un petit peu en opposition aux musiciens et tout ce qui se passait à la cour, parce que c'était pas toujours très passionnant, et ils avaient décidé de faire des groupes, mais pas n'importe qui pouvait rentrer dans cet ordre de la mouche à miel, c'est ça, mouche à miel. Et c'était sélectionné et vraiment trié sur le volet à cette époque. Très
oui,
intéressant.
Il n'était que quelques dizaines.
Je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais je pense que c'était trié sur le volet.
C'est intéressant d'aller sur Google et de lire les statuts de l'ordre de la mouche à miel, mais ce que je vais faire, on ne peut pas tout lire, mais je vais juste vous lire le serment dont le texte suit. Je jure par les abeilles du mont Hymette, fidélité et obéissance à la dictatrice perpétuelle de l'ordre, de porter toute ma vie la médaille de la mouche et d'accomplir tant que je vivrai les statuts de l'ordre. Et si je fausse mon serment, je consens que le miel se change pour moi en fiel, la cire en suif, les fleurs en ortie et que les guêpes et les frelons me percent de leurs aiguillons. Il ne fallait pas rire et la duchesse du Maine, a priori, était une personnalité assez exceptionnelle, autoritaire et révoltée. Donc voilà, ceci expliquant cela. Mais je vous laisse plutôt écouter cette œuvre donc, de Robert Devizet, donc La Courante suivie de la Sarabande, extrait de la suite en La mineure et c'est interprété par Thibaut Garcia. Thank you. Alors, ce petit feu de cheminée avec la guitare, ça vous a plu ?
Oh, merveilleux.
Vous venez donc d'entendre Robert Devisé par Thibaut Garcia. C'était la suite en la mineur, la courante et la sarabande. Eh bien, chère Françoise, vous vouliez encore nous dire quelque chose ?
Je veux dire une petite nouvelle qui va vous ravir, parce que vous savez ce dont je vais parler. Et c'est une petite nouvelle toute fraîche que j'ai reçue récemment concernant les musiciens de Saint-Julien et François Lazarevitch, que nous avons eu l'honneur d'interviewer ici. J'espère que nous le reverrons. Ils sont, vous savez bien, en résidence au Havre. Et on peut dire que Il Gardino de Vivaldi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, a été, écoutez-moi bien, chers auditeurs, tous ceux qui l'ont entendu vont sauter, claquer des mains, je ne sais pas, faire des choses merveilleuses, parce que c'est formidable pour eux. Donc, cet orchestre a été élu comme, ou surtout ce morceau a été élu comme grande gagnante dans l'émission de Jérémy Rousseau, la critique des critiques du disque sur France Musique. Donc, ils ont eu vraiment cette reconnaissance merveilleuse de grand, grand gagnant. Et ça, moi, je pense qu'on est tous d'accord.
Nous sommes tous d'accord.
Il y a aussi, vous pouvez voir aussi, des extraits de concerts du Volcan qui sont en vidéo sur, je pense, YouTube. Voilà cette bonne nouvelle. Et on est très heureux pour ces musiciens.
De grands talents.
Ah oui, et François Lazarevitch que nous admirons beaucoup.
Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles et ces belles nouvelles que nous vous souhaitons une belle année 2021, pleine de musique, pleine d'espoir et de soleil.
Je n'aurais pas pu mieux dire. Et on se retrouve bientôt avec nos choix, notre travail sur cette musique qui nous passionne tant, Thérèse et moi, et puis en compagnie de Gabriel.
Et voilà, merci aussi à Gabriel pour sa patience et sa gentillesse à la technique.
C'était Le Petit Monde Musical de Françoise et Thérèse.